Vous écoutez France Culture.
À voix nue. Toute cette semaine, Stéphanie Bonvicini rencontre Samuel Pizard. Ce soir, la renaissance d'un phénix.
Bonsoir Samuel Pizard.
Bonsoir.
Vous êtes libéré des camps de la mort le 28 avril 1945. Vous avez 16 ans. Vous venez de passer 4 années en enfer. Vous êtes avec vos deux comparses, vos deux fidèles comparses, Ben et Nico. Que faites-vous de vos premières heures de liberté?
Vous savez, je ne suis pas totalement squelettique, mais je suis très émacié au moment de la liberté. Ce que je fais au début, je mange. Je mange et je vomis. Les GIs qui ont de tonnes de nourriture me nourrissent. Et Nico et Ben aussi. Et nous mangeons. C'est psychologique. C'est hallucinant. 4 années de faim. Et ensuite, nous sommes un peu malades. On se rétablit et on commence à vivre un peu plus normalement.
Où est-ce que vous décidez d'aller avec Ben et Nico?
Là, la question ne se pose pas encore. Nous sommes libres et c'est une folle liberté. Et nous essayons de jouir de cette liberté, là où nous sommes. Rien nous manque, la nourriture est là. Les Fräulein allemandes sont là. Il n'y a pas d'hommes, des Allemands. Ils sont tous encore dans le camp de prisonniers en Sibérie ou je ne sais pas où. Donc, on essaye de s'amuser. Mais on ne sait pas très bien comment le faire.
Quel âge avez-vous?
15 ans et 11 mois. Ou bien 16 ans et quelques jours. Je ne faisais pas attention à l'époque. Je suis là, comme vous dites, avec Ben et Nico. Nous étions dans tout le camp ensemble, dans l'enfer et dans la liberté. Nous confisquons 3 grands motos. Et nous nous baladons sur la grande route de l'Allemagne pour respirer cette liberté.
À quoi ressemblait l'Allemagne dans les heures, dans les semaines qui ont suivi la libération?
Les ruines. Pour eux aussi, la faim. La déprime. Nous avons l'impression qu'ils ont peur de nous. Peur d'une vengeance. Moi, la vengeance ne m'intéresse pas. Nico un peu plus. Ben un peu moins. Et nous coexistons avec les Allemands. Et nous pratiquons au marché noir. Nous sommes bien avec les Américains. Les Allemands n'ont pas vu la moindre tasse du vrai café. Comme nous travaillons pour l'armée américaine, le petit déjeuner est une fête inimaginable, des immenses canistres de café, des œufs sans limite, le pain blanc, tout ce que vous voulez. Et après le petit déjeuner, tout cela reste sur la table. Moi, j'arrive avec ma moto et avec le sidecar, vous savez. Mm-hmm. On met ça dans le sidecar. On le ramène à la maison, on le râpe dans le petit...
Vous le moulinez?
Oui. Et on fait le troc avec les Allemands.
Combien de temps est-ce que ça dure, cette période ?
Ça dure presque un an. Là...
Vous êtes même arrêté à un moment.
À un moment, nous sommes arrêtés à cause du marché noir. C'est l'armée américaine.
Et vous vous retrouvez prisonnier
à nouveau ?
Il n'y a
pas de règles, là, en Allemagne, à cette époque-là. Il n'y a pas de loi. On fait ce qu'on veut.
Et vous vous retrouvez prisonnier à nouveau ?
Oui, le colonel de l'armée, là, de cette division de Duhaï, nous a convoqués. Il nous a dit, mes amis, prudemment, hein, il comprend que nous sommes des survivants. Il sait que nous pouvons nous permettre certaines choses. Mais comme c'est le chaos total, il nous dit, je pense, si j'ai bien compris à l'époque, il y a des limites. Et naturellement, il avait raison.
Est-ce que vous réfléchissez à ce que vous allez faire de votre vie avec Ben et Nico ? Est-ce que vous en parlez, de votre avenir ?
On parlait de ça, mais on parlait un peu plus de ce qui s'est passé avec les autres qui n'ont pas survécu. Nous sommes toujours là, avec le passé. On se cherche. On ne peut pas imaginer l'avenir.
Parce que Nico est un peu plus vieux que Ben et vous-même.
Et oui, lui... il a deux fois mon âge. Il est très beau. On l'appelle Humphrey Bogart. Et si c'était une vengeance, il était très séduit par les femmes allemandes. Et eux par lui. Donc il faisait ce qu'il voulait faire. Moi et Ben, nous observions tout ça. Nous avons appris aussi. C'est une forme de vie raisonnable dans le chaos.
Dans le sang de l'espoir, vous racontez que Nico vous encourage à prendre des leçons avec un officier de la Wehrmacht d'arithmétique,
oui,
et de géographie.
Il nous dit, vous êtes deux petits voyous, vous ne savez rien. Il faut que vous appreniez quelque chose. Débrouillez-vous. Donc on a trouvé un officier allemand. On lui a donné du café, des œufs et le reste, américain. Et il nous a dit, qu'est-ce que vous voulez apprendre ? Il dit, mais nous ne savons pas, un peu de maths, un peu de géographie. Et on a travaillé avec lui un mois, peut-être, ou six semaines. Ça n'a pas duré. Mais c'était déjà le début de quelque chose.
Finalement, vous auriez pu devenir un grand voyou plutôt qu'un grand avocat.
Je me demandais à une certaine époque si je ne pouvais, si je n'étais pas en train de devenir un gangster. Vous avez raison.
C'est Barbara Sauvage, la sœur de votre maman, qui vient vous récupérer,
oui,
alors, par le pantalon.
C'est Léo et Barbara Sauvage. Mm-hmm. Un jour, nous sommes chez nous, tous les trois, Nico, Ben et moi, et la femme de ménage, parce que nous avions une femme de ménage, vient me dire, nous sommes à table, un homme en uniforme est là. Il demande de vous parler. Il dit qu'il est votre oncle. Alors quand moi, à cette époque-là, j'ai entendu un homme en uniforme, je sortais par la fenêtre. Mais là, je me suis dit, famille, c'est pas possible. Je vais le voir. C'est un Français en uniforme qui s'appelle Léo Sauvage.
Grand reporter de guerre au Figaro.
Et il me parle en allemand.
Vous le connaissiez ?
Non, mais j'avais dans ma mémoire une carte postale qui est arrivée de Paris où Barbara était. Léo était son mari. Elle a écrit à sa mère parce que nous sommes sous l'occupation russe là. « Maman, je veux que tu saches que je me suis mariée, etc. » Elle a ajouté « Mon mari travaille pour une société française qui s'appelle Havas. J'espère qu'un jour, nous nous rencontrons. » C'était juste avant le commencement de la guerre mondiale.
La déclaration de guerre.
Alors, Léo est un homme intéressant. Il me regarde, je suis bien habillé, je suis bien élevé, je parle correctement en allemand. mon français est insuffisant. Et il m'observe et il est perturbé parce qu'il voit la vie que je mène. Il fume beaucoup et il fume le gauloise français. Et tout à coup, il n'y a plus de cigarettes. Alors je lui dis, oncle, ne t'en fais pas. Je l'amène dans le sous-sol de la maison où nous sommes et je ouvre une caisse de Lucky Strike. C'était notre marché noir. Et je prends deux cartouches. Chaque cartouche a 10 de Lucky Strikes. Et je lui dis, c'est probablement pas assez fort que le tabac français, mais et ça, là, il est paniqué. Et quelques jours plus tard, il part et il raconte tout ça à sa femme, la sœur de ma mère, Barbara Sauvage. Tous les deux ont sorti de la Sorbonne. Elle est là, elle s'installe chez nous. Je dis à Nico, si tu touches ma tante, je te tue. J'avais un revolver dans la poche. Et finalement, elle me dit, jeune homme, écoute, je suis la sœur de ta mère. Tu ne peux plus rester ici. Je ne sais pas ce que tu fabriques. J'aimerais que tu viennes à Paris avec moi. Le consul français est à Munich, 50 km. Je la mets dans la sidecar de ma BMW et nous allons à Munich voir le consul français. On entre et il nous reçoit parce que Léo a téléphoné pour tenir un rendez-vous. Il l'écoute, elle lui raconte l'histoire et elle demande un visa pour moi. Et il me dit, oui, je comprends. Alors, nous allons voir ce que nous pouvons faire, mais il me faut un certificat de naissance, un passeport, ceci, cela. Et là, elle devient pâle. Elle lui dit, monsieur le consul général, vous êtes pire que les Allemands. Sa ville est totalement détruite. Tout le monde est mort. Il n'a pas le moindre document. Alors, le consul, je dois dire, il était très correct. Elle était un peu excitée. Il a dit, donnez-moi quelques semaines, peut-être un mois, et je verrai ce que je peux faire. Pour abréger cette histoire, je lui ai dit en rentrant, Barbara, ne t'en fais pas. Rentre, dans une semaine ou 10 jours, je serai à Paris. Comment vas-tu faire ? Ne t'occupe pas de ça. Je viens, mais Nico et Ben viennent avec moi. Autrement, je ne bouge pas. Elle a pensé à ça et elle a dit, Ben, oui, Nico plus tard. Et à peu près 10 jours plus tard, j'étais chez elle, boulevard Saint-Michel, en face du Luxembourg.
Donc Barbara Sauvage rentre en France, vous lui promettez de la rejoindre. Vous la rejoignez 10 jours plus tard, vous arrivez en France avec Ben, vous restez à peu près une année à Paris, mais vous n'arrivez pas à rester en France. Pourquoi ?
Parce que je ne fais rien, je suis dans la société, je raconte, j'ai compris plus tard, des grandes personnalités littéraires et intellectuelles de l'après-guerre chez Léo et Barbara. Leur appartement est petit, ils ont un petit garçon qui s'appelle Pierre. Et le problème, c'est que je suis bloqué et elle le sait mieux que moi.
Bloqué par quoi ?
Par cette vie qui n'a pas de direction. Et donc, elle prend contact avec les deux frères de ma mère à Melbourne, en Australie. Ils se parlent. J'ai à peu reconstruit tout ça. Et ils se sont dit, il faut qu'ils quittent l'Europe, le plus loin possible. Et on ne peut pas être plus loin que l'Australie. Il faut qu'ils oublient, parce qu'il a perdu 6 années de scolarité. C'est probablement irrattrapable. mais il faut essayer. Et donc pour elle, c'était existentiel. Le seul survivant de leur grande famille, il faut le sauver à tout prix.
Alors vous repartez en Australie, vous rejoignez Lazare et Nachman, les deux frères de votre maman.
Oui.
Comment se passent les retrouvailles? En quelle langue d'abord?
Avec Léo, je parlais allemand, avec Barbara, un peu français et yiddish. Mon anglais était faible. C'est essentiellement en yiddish à cette époque-là. Mais quand j'étais à Paris encore, j'allais à l'école Berlitz pour apprendre l'anglais, pour me préparer pour l'Australie. Mon monde a changé radicalement en Australie.
Qui vous donne le goût d'apprendre?
Moi-même. Parce que je vois assez clairement que ça ne peut pas continuer comme ça. Et que j'ai une responsabilité vis-à-vis les morts de vivre. De vivre pour eux et de vivre pour moi. Ça m'a pris du temps, mais ça m'est venu. Et donc, je pense que je décidais de pomper mon adrénaline avec la même détermination que quand j'étais à Auschwitz. Et je pompais cette adrénaline dans la dimension physique pour survivre. Et maintenant, j'ai compris que ce n'était pas suffisant, cette survie, que je n'ai pas survécu. Il me faut une renaissance morale, intellectuelle, spirituelle. Et à ce moment-là, mes oncles, qui trouvent un moyen de me trouver un travail, Barbara à Paris voulait que je devienne photographe, parce qu'elle avait un ami photographe derrière l'Odéon. Là, en Australie, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour faire revivre ce que j'ai perdu. C'était encore difficile parce qu'on a trouvé que j'étais tuberculeux.
Mais la tuberculose vous a permis de découvrir la lecture.
Alors,
la lecture.
La tuberculose, c'était envoyé par Dieu parce que j'étais au lit, je ne pouvais pas bouger beaucoup et je commençais à lire. Et j'étais capable de lire maintenant en anglais, en français, en russe, en allemand, en polonais. Et je ne pouvais faire rien d'autre. Donc je lisais la littérature, la philosophie, en étudiant avec quelques professeurs qui ont accepté de m'enseigner individuellement. Et ensuite, on m'a mis dans cette école australienne pour des enfants problématiques, pas retardés. Par exemple, dans cette école qui s'appelait George Taylor and Staff, il y avait les plus grands athlètes du monde. Quelques mois après mon arrivée dans cette école, tous ces gens avaient des problèmes, ils ne pouvaient pas étudier normalement. Mon problème, c'était que j'étais à Auschwitz. Mais c'était la même chose. Et je les observais parce qu'avec tous ces talents venait aussi une certaine mentalité de fair play, d'être correct. Et c'est là où j'ai appris comment devenir un gentleman anglais. J'ai appris pas seulement à lire, mais à jouer Shakespeare, à l'université plus tard. Peut-être le plus grand miracle est venu de mon mentor, Sir Zalman Cowan, qui était mon professeur quand je suis entré à l'école de droit de Melbourne, et qui est devenu plus tard le gouverneur général d'Australie, le vice-roi de la reine d'Angleterre. Et par, je ne sais pas comme, quel miracle, parce que lui aussi, il s'est mobilisé pour me faire revivre.
Comment l'avez-vous rencontré?
Il était le doyen de la faculté de droit à l'université de Melbourne, ayant été un grand professeur à Oxford et ailleurs. Il a observé mon évolution. Vous me pardonnerez cette immodestie, je suis revenu un très bon étudiant. Miracle après miracle. Je gagnais quelques prix et je suis sorti de l'université de Melbourne avec quelques médailles considérables. Et je avais devant moi deux choix pour continuer.
Vous pouviez aller à Oxford, vous pouviez aller à Harvard.
Je discutais ça avec Sir Zalman Cowan constamment. Il était professeur à Harvard aussi pendant quelques années. Alors, il m'a dit, réfléchis et nous allons choisir ensemble. Je connais ton évolution. Oxford, Harvard, je sais que ta famille aime beaucoup la Sorbonne. Je choisis Harvard. Plus tard, c'était Oxford, c'était la Sorbonne, j'ai plusieurs doctorats.
Vous décidez de partir aux États-Unis.
Mais alors, pour aller à Harvard...
Pourtant, vous veniez de retrouver votre famille.
Oui, je trouvais la famille, mais la famille était intelligente et évoluée. Elle a compris qu'on ne peut plus m'arrêter. Elle ne voulait pas me perdre. Elle a compris qu'apparemment, il n'y a pas de limite. Elle a compris mieux que moi. Mon oncle Lazare, qui était le champion d'échecs d'Australie, m'a encouragé et m'a poussé d'accepter cette invitation pour aller à Harvard. Et Harvard était, à l'époque, même toujours aujourd'hui, le summum.
Qu'est-ce que vous devez à l'Australie ?
Ma chère, vous avez remarqué peut-être que l'Olympiade de 2000 était à Sydney. Tout le monde voulait l'Olympiade de 2000. Le premier ministre d'Australie m'a envoyé une grande personnalité australienne. Il m'a dit, je suis venu te parler et je voulais que tu te voir, pas le faire au téléphone. Le premier ministre demande que tu viennes en Australie, il a été parlé. Quelques semaines plus tard, je suis allé avec Judith.
Votre femme ?
Ma femme. Et là, je me trouve devant le premier ministre à Canberra. Il me reçoit, il m'embrasse. N'oubliez pas, j'étais très connu comme un grand étudiant, etc. Et j'étais le représentant d'Australie aux Nations Unies avant ça, parce que c'était mon premier emploi après Harvard.
Comme stagiaire aux Nations Unies.
Stagiaire proposé par l'Australie dans une compétition internationale, stagiaire attaché au secrétaire général des Nations Unies. C'était à l'époque Hammarskjöld, très grand. Et le premier ministre tourne de son bureau et prend mon livre, qui a été publié en Australie aussi, « Le sang de l'espoir ». Il cherche la page et il me dit « Je vais te dire quelque chose. Tu as écrit ici « J'ai une dette envers d'Australie que je ne serai jamais en mesure de payer ». Tu as écrit ça ? Oui, puisque vous le dites. Ne t'en fais pas, il y a un moyen. Dites-moi, le jeu olympique de 2000, c'était très compliqué, vous comprenez, parce que j'étais le conseiller du CIO et du président.
Le Comité international olympique, qui est la plus haute instance.
Oui.
Du milieu olympique.
Mais... je dis au président, pour le jeu olympique d'Atlanta en 1996, vous m'avez donné le dossier d'Atlanta pour préparer Atlanta pour la compétition. Et je l'ai fait. Est-ce que vous me permettrez de donner un coup de main à Sydney ? Lui, il voulait la Chine à cette époque-là. C'était trop tôt. Et moi, j'étais déchiré entre Sydney et Paris. Vous savez, je pensais toujours à mon anagramme, bizarre, Paris. Mais c'était pas possible à l'époque. Donc, je me suis mis à travailler avec les Australiens. Je ne sais pas si j'étais efficace ou non, mais ils ont gagné le jeu avec une voix. Donc, je suis allé avec Judith pour le jeu. Ben était mort, Nico était mort, mais les enfants de Ben étaient là. Je me suis retrouvé avec eux dans le siège de grandes personnalités du monde entier. Et les trois enfants de Ben étaient là à côté de moi. Le président du comité olympique, le marquis de Samaranch, pour la clôture, la cérémonie de clôture, a fait un discours. Et la dernière phrase de ce discours était « The best games ever », les meilleurs jeux depuis toujours. Voilà, je ne dirai pas qui a écrit ce mot pour lui.
Merci Samuel Pizard.
C'était À voix nue. Stéphanie Bonvicini rencontre Samuel Pizard. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Marcos Darras et Fabien Gosset, réalisation Gilles Davidas, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Demain, suite de cette rencontre de Stéphanie Bonvicini avec Samuel Pizard.